Ces héros extraordinaires. Un chapitre dans la vie des musiciens qui ne peuvent plus monter sur scène. Et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission qui met à l'honneur le talent des musiciens et compositeurs Diwa. Vous écoutez la RDIWA sur 107.5 FM ou en podcast sur le site www.rdwa.fr. Il y a des instruments qui savent pleurer et rire. Ou alors, peut-être plus précise, ce sont ceux qui en jouent qui arrivent à sortir une émotion si forte qui nous touche droit au cœur. Les sonorités étranges, riches d'harmonies incroyables, que notre oreille occidentale connaît grâce au film d'Emir Kusturica. Mon invité d'aujourd'hui n'a pas seulement appris à maîtriser parfaitement la musique des Balkans, de ce territoire entre la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Moldavie. Il s'en est tellement imprégné qu'aujourd'hui, il compose lui-même les morceaux dans cette tradition musicale. Il joue un instrument d'un nom intrigant, violon d'amour. Avec son quintet Boumbak, il continue malgré la situation sanitaire incertaine à créer et à diffuser son art. J'ai un grand plaisir d'accueillir au studio de Luc en Diwa, David Brossier. Bonjour.
Bonjour.
David, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Depuis quand tu es dans le Diwa et comment tu as choisi cet endroit pour ton lieu de vie?
Ça fait 7 ou 8 ans que je suis arrivé dans le coin. Je suis originaire de Gap, donc pas si loin de ça que... pas si loin d'ici. Et voilà, je suis passé à Lyon pendant un certain temps, en Haute-Loire, et pour revenir un peu plus près des montagnes et de la campagne.
Et du coup, la question, est-ce que c'est ce paysage qui t'inspire aussi quand tu composes?
C'est sûr. Oui, c'est... je préfère largement la campagne à la ville et je préfère largement une campagne vivante, comme le Diwa, qu'une campagne un peu morte où voilà, il ne se passe pas grand-chose. Donc le Diwa, c'était vraiment une terre faite pour les artistes, on doit dire quand même.
Oui, qu'est-ce que c'est une campagne vivante pour toi du coup?
C'est une campagne où à la fois il y a une activité agricole où les gens produisent, sont respectueux de leur terre, mais aussi où il y a la création des artistes, des artisans, pas uniquement des gens qui sont venus s'installer pour avoir le calme et le bon air, mais aussi des gens pour faire vivre le territoire.
Oui, et c'est vrai que même avec notre émission « Ces héros extraordinaires », on découvre la richesse de tous ces artistes qui vivent ce territoire. Étudiant un tout petit peu ton parcours, j'ai vu que tu es quand même passé par le conservatoire, du coup le violon classique. Et dis-moi ce moment où tu es parti.
Alors en fait, mes parents, à une certaine époque, faisaient de la musique folk dans les années 70. Donc c'est quelque chose que j'ai eu dans l'oreille étant gamin. Et en effet, j'ai commencé le conservatoire à 6 ans, comme beaucoup d'enfants. Donc j'ai fait du classique, etc. etc. Et à l'âge de 13-14 ans, en fait, mes parents m'ont proposé de m'inscrire à un stage de violon traditionnel de la musique des Alpes du Sud. Et je l'ai fait sans trop me poser de questions et ça a été un grand déclic parce que voilà, dans l'approche de la musique, il y avait quelque chose complètement différent de ce que je connaissais au conservatoire. On apprenait les mélodies à l'oreille. Il y avait quelque chose qui était beaucoup plus intuitif. Et c'est pas quand on est au conservatoire, tous les jours, on répète les mêmes phrases et tout, et on va jamais jouer en public tant que cela n'est pas complètement ficelé, etc. Alors que là, avec les musiques traditionnelles, il y avait quelque chose qui était que oui, bon, déjà, ce qui est important, c'est de faire tourner. Donc, avec les moyens qu'on a, c'est sûr qu'à 14 ans, on ne joue pas forcément très juste, très en place. Mais l'important, c'est c'est d'y aller, de jouer. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et donc, ça m'a amené vers d'autres musiques petit à petit.
À quel moment tu as décidé de suivre cette piste de l'Est et de la Roumanie? Qu'est-ce qui était à l'origine?
Eh bien, c'est des rencontres. C'est des rencontres, en fait, justement, en commençant ces musiques traditionnelles françaises. J'ai rencontré un musicien qui s'appelle Patrice Gabé, qui joue cette musique-là, mais qui joue aussi beaucoup de musique de l'Est, et qui organisait avec son groupe AXAC des stages tous les étés. Et donc, pareil, je me suis dit, pourquoi pas aller, il est sympa, on va aller voir ce que c'est. Et puis, bah, j'ai fait un premier stage et ça a été une grosse claque. J'ai appris une dizaine de morceaux que j'ai joué en boucle pendant un an jusqu'au stage d'après. Donc après, j'en ai appris 10 morceaux d'après, donc ça m'a fait 20 morceaux à jouer en boucle, etc. Mais oui, ça a été un grand déclic parce que au niveau de la musique, là, il y avait vraiment une palette sonore assez folle et ça m'a assez bouleversé.
Tu as découvert des sonorités que tu ne connaissais pas jusque-là?
Ben, à l'époque, je n'aurais pas vraiment mis de mots dessus. Je ne sais pas trop ce qui m'arrivait, mais je pense qu'il y a... Il y a quelque chose dans les mélodies qu'on trouve dans l'Europe de l'Est et dans le Moyen-Orient. Il y a quelque chose qui c'est pas ou blanc ou noir, c'est pas triste ou joyeux, c'est un peu des deux, quoi. Et cette dualité, elle est vraiment intéressante parce que par exemple, on a des modes en Turquie qui sont très utilisés, qu'on appelle par exemple le mode sabah, qui est un mode vraiment très très pesant, très triste. Et à la fois, il y a des danses avec des textes totalement légers qui sont faits avec ce mode-là. Voilà la rencontre entre ces différentes couleurs, ces différentes façons d'exprimer la joie, la tristesse. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Quoi.
Est-ce que c'était difficile au début d'apprendre ces musiques? Parce que de mon point de vue, moi, je ne connais que par l'écoute. Je n'ai jamais essayé de jouer ces morceaux. Ça me semble extrêmement compliqué. Est-ce que c'était difficile, facile quand tu as pris ces premiers stages?
Je crois que la motivation était plus forte que la difficulté. Je ne me suis pas vraiment rendu compte. Après, il se trouve que j'avais pas mal travaillé l'oreille, en fait, déjà au conservatoire. D'une part, parce que j'avais un professeur qui nous incitait beaucoup à travailler l'oreille. Et d'autre part, parce que je suis dyslexique et que du coup, la lecture, même de la musique, c'était un truc compliqué. Du coup, j'avais plus vite fait d'écouter ce que faisaient par exemple à l'orchestre les violons à côté de moi, plus que de lire la partition. Le travail d'oreille, ça n'a pas trop été une difficulté. C'est plus tout le langage ornemental qui a été long à acquérir. Et puis surtout qu'au début, on voit les Balkans comme un grand territoire, mais entre guillemets uni. Et après, on comprend que oui, il y a la Roumanie, il y a la Bulgarie, etc., etc. Et puis dans chaque pays, il y a des régions. Et puis dans chaque région, il y a encore des styles un peu différents. Donc ça, c'est un travail qui se fait avec le temps. C'est sûr que c'est pas en un stage qu'on comprend tout ça. Donc c'est vraiment un travail qui s'est fait sur la durée.
Comme un apprentissage, ça prend toujours un certain temps.
Oui, oui, c'est sûr.
Avant de nous jouer un premier morceau, est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier voyage en Roumanie quand tu avais 18 ans?
Du coup, quand j'ai eu 18 ans, que j'ai passé mon bac, c'était un peu... ça faisait depuis un petit moment que je me disais, bon, bah, quand j'aurai mon bac, je pourrai aller... ça y est, ça sera... C'était un peu le passeport pour enfin vraiment faire de la musique. Donc, je suis allé une première fois en Roumanie.
Tout seul?
Je ne pas partir tout seul avec mon sac, sans contact et tout. Il y avait quelque chose qui m'intimidait un peu et puis je ne connaissais pas bien ce pays en fait. Je suis parti avec ma mère à un festival qu'organisait un Français qui s'appelait Mara Musical, qui s'est passé au nord de la Roumanie, dans une région qui s'appelle Maramureș. Et j'avais entendu parler de ce festival sur le Guy du Routard, enfin c'était... C'était vraiment trifouillant, voilà, avant d'avoir Internet et d'avoir plein d'infos, j'étais tombé là-dessus. Et du coup, la première anecdote musicale, c'est que je suis arrivé dans le Maramureș, et en fait, c'était une région que musicalement, je ne connaissais pas du tout. Donc moi, je me faisais une idée de la Roumanie, que bon, il y avait quelques différences régionales, mais je connaissais pas tout précisément. Et je suis arrivé au Maramourech. Et pour illustrer la musique du Maramourech, c'est une musique qui est un peu comment dire, qui est un peu plus ancestrale que le reste de la Roumanie. L'orchestre de base, c'est le violon, accompagné d'une sorte de guitare qu'on appelle la zongola, qui est en fait qui est accordée en accord ouvert en la majeur. Et du coup, les gens font que des barrés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop la guitare, c'est un peu dur d'expliquer, mais en gros, ils font que des accords majeurs. Que la mélodie soit majeure ou pas. Donc, il y a des sortes de dissonances un peu étranges. Et moi, je n'avais jamais entendu cette musique-là. Donc, je suis arrivé là. Et le premier jour, l'endroit où j'étais hébergé, ils m'ont dit « Ah, mais il y a le violoniste qui marie sa fille. Viens vite, il va voir la musique, c'est cool. » Et donc, j'arrive et là, je découvre une musique que je ne connaissais pas du tout. Alors que moi, je pensais quand même connaître minimum la musique de Roumanie. Et je pensais ne pas être étonné quand même. Donc, c'était un peu une illustration de la nécessité de voyager quand on fait les musiques du monde. C'est que, voilà, forcément, quand on arrive sur le terrain... Il se passe autre chose, au-delà des CD, des partitions, des rencontres qu'on fait en France.
Donc, une grande surprise. Qu'est-ce que tu nous joues? Qu'est-ce que tu veux nous présenter?
Je peux vous présenter une petite doina que j'ai écrite pour Quintet Boombak.
Vous écoutez le violon de David Prossier qui nous ramène la musique des Balkans dans le Diwa sur Air Diwa 107.5 FM. Qu'est-ce que c'est une doina? Moi, j'ai l'impression d'entendre une histoire racontée par un violon.
C'est un peu ça. C'est vrai que souvent, donc il y a certaines doinas qui sont chantées. Et donc, à l'origine, c'était vraiment dans la famille et les chants chantaient une chanson qui avait un rapport avec leur histoire personnelle. Donc, c'était souvent des histoires tristes. Mais donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui restait vraiment dans le cadre familial. Et il y a une autre forme de doina dont on parle beaucoup en Roumanie, c'est un peu les bergers avec une flûte de pan ou avec une flûte, qui tout seul sur la montagne, pour passer le temps, jouent des doinas comme ça, face à la montagne.
Donc c'est quelque chose d'intimiste, parce que je sens quelque chose de vraiment intimiste, introverti, intimiste.
Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de doinas qui sont accompagnées avec des orchestres de 20 personnes, etc., etc., ça garde ce caractère, mais c'est forcément un peu différent. Donc là, c'est pour ça que ça m'a plu de faire un arrangement juste pour le violon, pour justement ramener à ce côté vraiment intimiste de la doina.
Je regarde ton instrument dans tes mains, le violon d'amour. Alors, j'ai appris aujourd'hui qu'est-ce que c'est le violon d'amour, mais peut-être que les personnes qui écoutent l'émission ne savent pas forcément. Je vais juste préciser que ton instrument a été fabriqué par un luthier marseillais. Et j'ai l'impression que c'est un peu un sort d'original. Oui. Est-ce que c'est toi qui as imaginé cet instrument?
Oui, alors en fait, à un moment, je jouais du violon normal, un peu du violon que tout le monde a dans les mains, enfin que tous les violonistes ont dans les mains plutôt. Et il y avait quelque chose qui me gênait dans ce violon-là. Je voulais changer et en fait, je ne changeais pas parce que je n'arrivais pas à savoir ce que je cherchais dans un violon. Donc ça a mis plusieurs années. Et puis un jour, je me suis rendu compte que par rapport au violon que j'avais dans les mains, ce que je voulais, c'était de la résonance et une certaine chaleur des graves que n'avait pas forcément mon violon, mais qu'en fait, les violons n'ont pas forcément. Donc je suis allé voir André Sakalarides, qui est un luthier que je connaissais depuis un petit moment, parce qu'il fait pas mal d'expérimentations sur les instruments à cordes. Et je lui ai parlé de ce projet de violon. Et du coup, lui, il m'a proposé un violon à 5 cordes. Donc c'est un violon qui a les 4 cordes du violon traditionnel, plus le Do grave, qui est la corde qu'a l'alto. Donc c'est un violon qui cumule le violon et l'alto, avec une caisse légèrement plus grande que le violon, légèrement plus petite que l'alto, donc qui est vraiment entre les deux. Et il a rajouté ce qu'on appelle les cordes sympathiques. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle violon d'amour, parce que les violons d'amour, viol d'amour, c'est pour ces cordes sympathiques. Et les cordes sympathiques, pour ceux qui ne connaissent pas ce principe-là, c'est des cordes qu'on ne va pas jouer directement, mais qui résonnent avec l'instrument et qui donnent une sorte de réverbération naturelle. Elles passent, on ne les voit pas très bien, elles passent dans le manche, en fait. Le manche est creux. Elles passent sous les cordes mélodiques au niveau du chevalet. Et donc, bon, pour vous faire écouter, si je fais juste un petit accord, on entend derrière une sorte de petit halo. Et ce petit halo, c'est ces cordes sympathiques. Voilà.
Ah, c'est ça. Voilà, violon d'amour, donc ce n'est pas un violon des amoureux. Dis-moi, comment ça s'est développé ensuite, ton parcours? Donc aujourd'hui, tu es un musicien qui pratique cette musique des balcons. Tu as même plusieurs projets. Tu travailles aussi en duo. Comment tu as fait pour en arriver là, à partir de ce premier voyage en Roumanie? Comment ça se fait? Comment ça se développe?
C'est vraiment des rencontres. C'est vraiment des rencontres et beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. En fait, quand j'ai eu 18 ans, donc j'ai fait ce voyage en Roumanie, qui n'était pas très long. Je suis parti 2 semaines, mais c'était une première rencontre. Il y a eu beaucoup de voyages après, par la suite. Et je suis parti à Lyon. J'ai commencé des études de musicologie, mais c'était plus un prétexte pour quitter les Hautes-Alpes et voilà, rencontrer du monde. Parce que aujourd'hui, je dirais peut-être pas la même chose, mais en tout cas, quand j'avais 18 ans, imaginer commencer une carrière musicale et faire des rencontres dans les Hautes-Alpes sur la musique du monde et encore plus la musique des Balkans, c'était un peu compliqué quand même. Donc il fallait faire des kilomètres. Et en fait, à Lyon, je me suis inscrit à l'école de musique de Villeurbanne, qui est une école de musique assez alternative, où il y avait une classe de musique orientale menée par Marc Lepuit. Et j'ai commencé à prendre le oud, donc le luth oriental, avec lui. Et avec le violon aussi, en venant avec le oud et le violon. Et en fait, dans sa classe, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, à Lyon, voulaient découvrir les musiques orientales. Et du coup, les premiers contacts que j'ai eus, c'est via ce cours, en fait.
Et les premières collaborations, peut-être aussi?
Tout à fait. Et d'ailleurs, dès la première année, c'est là que j'ai rencontré Léonore Grolmoun, qui est la violoncelliste, qui fait partie de Quintet Boombach. Donc, ça veut dire que c'est des rencontres... Il y a eu des rencontres qui ont duré, qui durent encore et qui... Voilà.
Donc à l'époque, c'était sûrement une bonne décision de quitter les Alpes pour aller vers la ville pour rencontrer du monde.
Voilà.
Alors j'ai vu que non seulement au début, évidemment, tu as eu ton parcours d'apprentissage, donc tu as sûrement bourlingué, rencontré des gens, écouté, copié, appris. Et j'ai vu que est-ce que c'était à partir de 2015 que tu t'es mis aussi à... composé, c'était peut-être plus tôt, mais il me semble que le premier CD, il est sorti en 2016 de votre quintette Boombach.
Ben, en fait, j'ai toujours composé, après, peut-être moins intensivement, mais j'ai toujours composé, arrangé, etc. Mais en fait, il arrivait toujours un moment où on se dit, tiens, on va faire un projet sur le rebetiko, du coup, on fait un projet sur le rebetiko. Du coup, le but du jeu, c'était de faire du rebetiko, par exemple, Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une musique urbaine du début du XXe siècle grec. Et du coup, la composition, dans un ensemble comme ça, elle n'avait pas une place énorme, par exemple. Et que ça soit pour faire la musique bulgare, pour la musique roumaine ou quoi, et à chaque fois, il y a une petite part pour la composition, parce qu'en fait, c'est des musiques vivantes. Du coup, il faut les faire vivre aussi à sa manière. Ça veut dire que des fois, on joue un thème et il nous manque une partie pour finir ou quoi. Bon, on fait un thème en plus, enfin, qui n'existe pas, on compose, ça fait partie du jeu. Mais voilà, donc j'avais des compositions un peu dans un sac et tout, et je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis un jour, il y a eu cette idée de... Bon, c'était suite à l'arrêt d'une de mes formations. Donc je me retrouvais avec beaucoup moins de concerts, beaucoup moins de choses à faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ce serait le projet d'après, en fait? Et du coup, il y a eu un peu cette idée de mettre ensemble en fait, des instruments à cordes frottées. Donc violon, violoncelle, contrebasse, et de faire que des compositions autour des musiques des Balkans.
Quand tu composes, un compositeur classique, il y aura une idée musicale, il va la noter dans une partition. Ça se passe comment pour toi?
Alors, moi, je fais pas mal de maquettage. Donc, j'ai mon studio à la maison. Et quand j'ai trouvé une mélodie, un concept d'écriture, je vais enregistrer toutes les voix. Et de la contrebasse au violon. Donc la contrebasse, je la fais au clavier parce que je joue pas de contrebasse. Le violoncelle, je m'en tire à peu près avec la cinquième corde de mon violon, mais c'est pas toujours facile. Mais voilà, en tout cas, je bidouille un peu pour arriver à faire les voix de chacun. Et du coup, ensemble, on travaille beaucoup d'oreilles. C'est-à-dire que voilà, quand j'écris un morceau, en fait, j'envoie la maquette. Je dis, bon, voilà, ça, c'est le prochain morceau. Alors, voilà, après, je note quelques partitions. En fait, ce que je note, ce n'est pas les mélodies, c'est plutôt...
La structure. Ce qui va être,
les contre-champs. Parce que, bon, voilà, quand il n'y a que des cordes, en fait, à un moment, c'est un peu dur de savoir qui fait quoi. Et en même temps, mon écriture joue beaucoup là-dessus, donc je suis bien obligé de noter quelque chose. Mais il y a quand même une grosse part de travail d'oreille. Voilà.
Les morceaux que vous jouez, c'est 100% fixé ou est-ce qu'il y a des parties improvisées? Parce que j'ai vu aussi que dans la musique des Balkans, parfois il y a des motifs et parfois il y a aussi des espaces pour l'improvisation.
Oui. Il y a de l'improvisation et après, il y a aussi une part d'improvisation qui est dans les thèmes. Ça veut dire que c'est pas une musique figée. Même un même thème, on peut le jouer de 36 000 façons différentes. Donc il y a aussi de l'improvisation au sens, voilà, on ne sait pas forcément où on va, mais il y a aussi beaucoup de variations.
Pourquoi tu as choisi Boombak comme le nom de votre quintette? Alors j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé que ça veut dire le coton en roumain. J'ai pas trouvé trop de... J'essayais d'imaginer le pourquoi et je n'ai pas réussi.
Eh bien, en fait... C'est un peu pour revenir aux premières discussions qu'on avait dans cet entretien, c'est que boombak, ça, c'est le coton, donc c'est quelque chose de plutôt doux. Et à la fois, le mot boombak, c'est quelque chose qui est plutôt percussif. Et du coup, j'aimais bien la dualité du doux un peu percussif, qui est deux choses qu'on croit que ça ne va pas ensemble, mais en fait, finalement, ça va très bien ensemble.
C'est comme tu as dit au début, il y a cette tristesse et en même temps cette joie, c'est mélangé, il y a comme s'il y avait plusieurs niveaux. Et c'est un peu comme la vie, au fait, dans la vie, c'est jamais noir ou blanc, ça se mélange, ça va de l'un à l'autre.
Voilà, tout à fait, et ça illustre bien Katem Boubak, parce qu'en fait, on est quelque part un quintet à cordes, donc on est proche de la musique de chambre classique. Et dans l'imaginaire des gens, la musique classique, la musique de chambre, c'est quelque chose un peu calme. Justement, enfin, musique de chambre, on imagine, on écoute ça dans un salon, quelque part, c'est plutôt doux. Et musique de chambre des Balkans, c'est comme s'il y avait deux termes qui n'allaient pas très bien ensemble, parce que les Balkans, c'est plutôt des danses, c'est plutôt du rythme dans notre imaginaire. Et du coup, c'était l'alliance des deux. Voilà.
J'aimerais bien offrir aux auditeurs de la RDOA ton morceau Boombak, justement, que j'ai trouvé sur le premier CD, sorti en 2016, composition David Brossier. Vous écoutez la RDOA, je suis toujours au microphone du studio de Luc Andua avec David Brossier, le compositeur, musicien, joueur du violon d'amour. Avec son quintet Boombak, il ne peut plus sillonner les quatre coins de la France ni l'étranger, malheureusement à cause de la situation actuelle. Comment ça se passe pour toi? Parce que j'ai vu que les membres actuels, ils vivent dans différentes parties de la France et en Belgique.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment pas simple en ce moment. Voilà, à rajouter à ça que ce serait que je vis avec quelqu'un qui a des gros problèmes respiratoires. Donc, c'est-à-dire que c'est pas que les restrictions, c'est-à-dire que c'est même les restrictions que je m'impose moi-même, on va dire, qui font que c'est pas facile. C'est vrai que pour nous, ça a été d'autant plus compliqué qu'on a joué, on a fait notre concert de sortie d'album au studio L'Ermitage le 11 mars dernier.
Donc ça, vous l'avez encore fait? C'était juste
C'était le
avant?
dernier concert, c'est-à-dire que Emmanuel Macron parlait une demi-heure avant qu'on joue. Là, peut-être que ça va chauffer un peu. Et le lendemain, Édouard Philippe disait, il n'y a plus de concert. Donc, on est arrivé à Paris en se disant, est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va pas se passer? On était partagé entre ben, une sorte de responsabilité sanitaire qui nous dépassait d'autant plus à l'époque, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et puis, ce truc-là qui est qu'on a investi de l'argent et surtout beaucoup de temps à faire ça, et puis d'un coup, on ne sait pas ce que ça va devenir tout ça. Je dois dire que c'est une année où je me suis senti assez agriculteur, alors dans le sens que je vois mes amis agriculteurs qui plantent des choses, qui toute l'année triment à faire pousser, prendre soin de tout, arracher les mauvaises herbes, rajouter de l'eau, etc., etc. Et puis une semaine avant la récolte, il y a un coup de grêle et c'est fini et c'est plié. Et je pense qu'en tant que musicien, on n'a pas été confronté à ce genre de situation et du coup, on a tous voulu râler. Je pense tous les musiciens doivent bien comprendre ce truc-là. On se dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Tous à dire bon, on va décaler d'une semaine. Et puis une semaine après, on décale de 2 semaines, etc. Et voilà, ça nous a un peu ramené à un sens des réalités qu'on connaissait pas. Enfin, en tout cas, moi, je connaissais pas. Et voilà, donc l'album devait sortir juste après ce concert au studio de l'Ermitage. Et du coup, ça a été décalé. Il est sorti finalement début juin. Et c'est vrai que ça a été un peu une épreuve parce qu'on est un groupe, on va dire, intermédiaire. Ça veut dire qu'on a une structure, mais c'est nous qui bougeons des montagnes avec nos petites mains. Alors,
Pour jouer.
pour jouer, pour. On a une attachée presse, Laurence Azizia, qui a fait un énorme travail avec nous, mais elle, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'elle avait contacté plein de journalistes, on devait avoir des articles, et puis d'un coup, tout le monde est chez soi, donc les gens, on ne peut plus les contacter, on ne peut plus aller à Radio France. Donc on a été vraiment bloqués. Ça a été une période assez dure, et puis voilà, au bout d'un moment, on s'est retrouvés. Avec l'idée d'exister différemment. Et en fait, on avait commencé un travail avec David Bouvard qui nous a fait déjà des clips vidéo et qui a vraiment un regard assez spécial et qui c'est assez intéressant. Enfin, d'ailleurs, il n'est pas vidéaste, il est ingénieur du son. C'était drôle de bosser avec lui. Et on a pris 3-4 jours dans les Hautes-Alpes. Début juin, dès que ça a pu être possible, on a fait un concert filmé comme beaucoup ont fait. Et voilà, on a décidé de mettre un peu les moyens en prenant un temps pour le mixage, un temps pour la réalisation, etc. Et on a fait d'autres vidéos en plus, des sortes de performances in situ, avec une doina qui était dans le premier album qu'on a enregistré éclairée à la lumière des bougies. Une grande expérience. Et une autre vidéo qu'on a fait sur un arrangement de Satie que j'ai écrit pour Quintet Boombach, filmé uniquement dans des miroirs. Donc, c'était un concept un peu.
Ah oui, c'est le nom, c'est le titre du deuxième album, Miroir.
Voilà, donc ça faisait miroir au nom de cet album. Donc, nous, ça a été le moyen d'exister dans cette période-là, c'était de se dire, bah, on ne peut pas faire de concert, mais on va trouver d'autres moyens. Alors, on a encore des idées de vidéos. On a un projet de vidéo avec une danseuse qui s'appelle Maria Robin, qu'on doit faire dans un lieu qu'on ne sait pas exactement, mais on aurait bien aimé un salon de thé un peu oriental. Mais bon, ça, pareil, en ce moment, c'est un peu compliqué, les salons de thé à trouver. Mais en tout cas, on a encore des projets de vidéos pour essayer de vivre d'une manière ou d'une autre. Chez les gens et pas sur scène, mais voilà, on est patient, on sait que ça arrivera.
Oui,
Voilà.
ça commence déjà tout doucement à se relâcher, prions
Voilà.
pour l'été,
Voilà.
les concerts à l'extérieur, au moins.
Tout à fait.
Moi, j'ai bien aimé, justement, pour moi, c'est vraiment la marque de résilience, tu vois, de ne pas baisser les bras. Ben, votre CD, il a été juste pas programmé au bon moment et vous ne saviez pas, personne ne savait. Et j'ai beaucoup aimé, justement, qu'est-ce qu'on en fait? Ok, on va dans une chapelle dans les Hautes-Alpes et on en fait une jolie vidéo qu'on peut partager avec les autres. Et ça, je trouve vraiment, vraiment... que vous avez des ressources. Bon, en tant qu'artiste, il faut avoir des ressources, sinon on ne ferait pas le métier qu'on fait, évidemment. Mais je trouvais ça très beau, très touchant.
Bah, je pense qu'il ne faut pas souhaiter des situations catastrophiques comme celles qu'on vit en ce moment, mais dans ces situations-là, forcément, il y a d'autres choses qui peuvent naître. C'est vrai que moi, j'ai des... Bah, par exemple, Christian, qui fait partie du Quintet Boombox, il a enregistré un album chez lui, je pense qu'il n'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu cette chose-là. Je sais que, par exemple, lui, il s'est beaucoup plongé dans la lecture de plein de livres qu'il avait d'un côté, comme beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens sont mis à la littérature un peu plus pendant cette période-là. Il faut arriver à prendre tout ça comme une opportunité. Alors, ce n'est pas facile. C'est vrai que moi, j'ai un enfant de 3 ans. C'est moins facile pour les opportunités. Mais je veux dire, ça a été une opportunité pour passer plus de temps avec lui, par exemple, mine de rien. On ne peut pas rester, qu'on soit musicien ou pas d'ailleurs, on ne peut pas rester tout seul dans nos maisons à se demander quand est-ce que ça va redevenir normal. Il faut trouver un moyen de faire des choses. J'allais dire, peut-être dans le cadre qu'on nous impose. Ce n'est pas forcément facile, mais il y a plein de choses à faire. On ne peut pas... La vie d'hier, ce n'est pas la seule chose qu'on a à faire de notre vie.
Je parle avec David Brossier, le compositeur, musicien, duo, qui joue la musique des balcons. Je le remercie infiniment de s'être déplacé jusqu'à l'écran du Havre.
Avec plaisir.
Pour cet entretien. Si on a envie de découvrir ta musique, où est-ce qu'on peut aller voir?
Alors, il y a mon site internet qui est David Brossier, donc Brossier, BRO2SIER.fr. Et sinon, il y a le site de Quintet Boombox, donc Quintet, Quintet, Boombox, BUMBAC.com.
Et avant de se quitter, qu'est-ce que tu veux nous jouer, David, encore?
Je vais jouer une petite mélodie que j'ai écrite pour la contrebasse. Ce qui est dans notre dernier album qui s'appelle Lueur du Levant. Qui est une sorte d'une introduction plutôt inspirée de la musique iranienne, pour le coup. Et donc c'est Anita qui joue ça à la contrebasse, donc je me sens... presque gêné de le jouer au violon. Mais bon, ça me fait plaisir quand même, donc je vais partager ça avec vous.